Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Karine Galli.
On est ensemble jusqu'à 22h. Juste après, il y aura l'After Foot avec Gilbert Bribois, David Busman, Elton Mokolo sont là. On vous lit sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. On vous attend également au 32 16. On a vu qu'Elton et David étaient extrêmement ambitieux pour les clubs français en Coupe d'Europe. J'enlève évidemment Paris. Jérôme qui nous dit les deux compères, ils me font penser à tous ceux qui pensaient que prendre le Villarreal d'Emery en LDC était un bon tirage à l'époque. Et Rudy nous dit Karine est la plus lucide ce soir,
bien sûr. Alors là, il est tombé sur la mauvaise personne parce que
si les mauvaises personnes.
Sur les mauvaises personnes parce que s'il y a bien une personne, deux personnes qui valorisent le football espagnol, qui valorisent Unai Emery en Coupe d'Europe, bah c'est bien nous.
Qui valorisent Unai Emery tout court.
Bon, ouais, messieurs, voilà. On va continuer évidemment de parler de la Ligue 1. On vous rappelle aussi l'information du jour, c'est que le match entre Paris et Rennes ne se joue plus au Parc des Princes. Il se jouera dimanche à Rennes parce qu'à Paris, il y a eu la canicule. Comme partout en France, d'ailleurs. Mais la pelouse du Parc des Princes est impraticable. Il y a notamment des champignons et donc une décision a été prise. Maintenant, évidemment, on va voir toutes les discussions pour savoir si les deux matchs vont avoir lieu au Rosen Park ou pas. Parce que du côté de Rennes, selon nos informations, pour l'instant, on ne veut pas parler d'inversion. On parle de repli, de solution trouvée au dernier moment, parce qu'on est mardi et le match a lieu dimanche.
Bah c'est vrai que pour organiser tout ça, c'est un barnum, un match de Ligue 1. C'est même pour les supporters, mais les conditions d'accession, la sécurité, tout ça, c'est un budget.
Tu fais quoi pour les loges, les hospitalités? Tu réinvites les sponsors? Comment tu le factures?
Bah oui, c'est ça.
Le financier qui parle, moi, c'est les revenus.
Tu as raison, mercredi, dimanche, c'est très. Enfin, j'allais dire, c'est très difficile. Évidemment que tu peux le faire, mais c'est pas aussi facile qu'on peut le prétendre, à savoir que tu mets la lumière dans le stade et c'est bon.
Non, mais ouais, c'est sécurité, moi, c'est surtout pour les loges, en fait. Comment, pour les partenaires, qu'est-ce que tu. Ok.
Bah oui, intéressant. Parce que, attention, on parle d'un Rennes-PSG, PSG double champion d'Europe, donc c'est tout un accueil qui est particulier, et donc on ne fait pas les choses à moitié, quoi.
Donc pour eux, du côté de Rennes, c'est les informations que l'on a du club. Ils ne veulent pas polémiquer, mais ils considèrent que les textes en vigueur font que le match retour devrait se jouer aussi, et comme prévu, au Roazhon Park, parce qu'on parle de raisons exceptionnelles pour la tenue du match dimanche à Rennes. On verra évidemment tout ça tout au long de la soirée.
Sur une bataille juridique.
On va avoir énormément d'informations d'ici dimanche. Il y aura évidemment la question qui sera posée aux acteurs du match dimanche soir. On suivra tout ça de près.
C'est Santa Barbara. Hein.
Et vous aurez toutes les informations sur rmcsport.fr. Mais c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que les deux matchs se jouent au Roazhon Park. Mais bon, on n'en est pas là. Dimanche, ça sera bien au Roazhon Park, en tout cas. Et justement, on devrait retrouver un homme, c'est Esteban Le Poll, on le rappelle, qui a été élu meilleur buteur la saison passée. La belle surprise, il était parti d'Angers après la première journée de direction Rennes. 21 buts marqués. Le meilleur buteur, par contre, n'a pas eu droit à la Coupe du Monde. Et c'est vrai que c'est assez rare quand même quand tu as un buteur souvent français en Ligue 1 et qu'il y a une grande compétition. Il est souvent convoqué par le sélectionneur. Ça n'a pas été le cas pour Esteban Le Poll. Quel neuf vous excite le plus avant la reprise, messieurs? Parce qu'il y a évidemment beaucoup d'attentes. Esteban Le Poll, c'était la belle surprise. Est-ce que vous pensez qu'il peut confirmer, continuer à être le serial buteur qu'il a été l'an passé, ou est-ce que vous voyez d'autres neufs qui pourraient émerger? Parce qu'on rappelle qu'il y a aussi des neufs qui n'en sont pas. Ousmane Dembélé, la saison d'avant 2024-2025, c'est le meilleur buteur de Paris, c'est le meilleur buteur de la Ligue 1, mais c'est un faux neuf.
Non, mais c'est un enjeu qui est très important, le fait d'avoir un renouvellement des avancantes, des numéros 9, entre guillemets, précisément pour avoir une émulation au classement des buteurs, parce que l'année dernière, on a eu deux belles surprises. Esteban Le Poll, Panicelli jusqu'à sa grave blessure, qui est quand même resté deuxième meilleur buteur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année dernière, c'est pas comme si on a eu un cru qui était extraordinaire, qui était exceptionnel. Moi, je rappelle 2022-2023. Alors c'était d'autres considérations. On était sur un championnat à 38, mais il y avait énormément de buteurs, énormément de neufs à plus de 15 buts. Moi, j'ai envie de retrouver ça. J'ai envie de retrouver une série de numéro 9 à plus de 15 buts. Et donc par rapport aux joueurs qui sont susceptibles de nous exciter, on a évoqué Openda, on a parlé d'Esteban Le Poll. Moi, j'attends beaucoup aussi, même s'il va avoir une réalité un peu plus différente, Ferran Torres en tant que numéro 9, parce qu'il sort de la meilleure saison statistique de sa carrière avec le Barça. 16 buts, il a mis le but qu'on a tous rêvé de mettre en finale de Coupe du Monde. Et au PSG, avec des joueurs extraordinaires, ça doit être une suite logique d'être un concurrent pour le titre de meilleur buteur.
Surtout qu'il va grappiller des minutes en Ligue 1. Donc oui, pourquoi pas. Moi, le 9 dont j'attends la confirmation, peut-être pas pour le titre de meilleur buteur, mais dont j'attends la confirmation parce que je trouve qu'il est en progrès constant et majeur depuis plusieurs saisons, c'est Lassine Sinayoko. Je trouve que Lassine Sinayoko,
qui a signé au Paris FC,
beaucoup mieux entouré, avec des vrais passeurs, avec du Ilan Kebal, avec du Pablo Pazis, avec du Cole Ocho, avec du Jonathan Ikoné, avec du Moses Simon. Je trouve que dans le pressing, dans la perforation, dans les dribbles, dans la création d'occasion pour lui et pour les autres, vraiment Lassine Sinayoko, c'est un vrai client. Je persiste à penser que le Paris FC a fait un vrai coup entre lui et Pagis, un vrai coup financier et un vrai coup sportif. Et c'est le joueur que j'ai envie de mettre en avant dans cette dynastie des nouveaux numéro 9, parce que c'est aussi un joueur qui a pas mal joué sur le côté et qui a d'ailleurs joué sur le côté en fin de saison à Auxerre. Mais c'est un joueur dont j'attends beaucoup, dans un club dont j'attends beaucoup, avec un actionnaire dont j'attends beaucoup.
De toute façon, on va dire peut-être meilleur buteur aussi, parce que par exemple, du côté de Marseille, Paschão, qui devrait être le numéro 1 au niveau des buts, n'est pas un...
Attention, Karine.
N'est pas un 9. Aidez-moi, les garçons, parlez.
N'est pas un 9, mais t'as Amin Gouiri...
Greenwood n'était pas un non plus.
Ouais, voilà. Donc, ça, le but était davantage démocratisé du côté de l'Olympique de Marseille, mais c'est vrai que du côté de Marseille, Paschão, encore une fois, s'il reste, il peut être un joueur qui peut se mettre en avant.
Moi, j'en ai un. S'il revient... C'est pas s'il reste, s'il revient.
Ah,
si il revient avec la seconde partie de saison qu'il a fait, avec le barrage qu'il a fait.
Je sais à qui tu penses.
Eli Wahi.
Ouais, voilà, je savais.
Dans un environnement qui lui sied à merveille. Et je pense sincèrement qu'il n'y a peut-être pas 5 clubs en Europe qui conviennent à Eli Wahi. Mais Eli Wahi, avec un entraîneur paternaliste comme Pantaloni, avec un environnement qu'il a apprécié, un joueur si sensible, avec un stade qu'il a poussé, avec l'absence de concurrence aussi au poste, s'il revient relativement tôt dans la saison, et je souhaite vraiment pour le joueur et pour le club que ça se fasse. Ça peut être un sérieux concurrent aussi à la couronne.
On l'a évoqué dimanche, mais moi je pense que l'étape de Benfica était trop haute. En plus, il tombe sur un changement d'entraîneur avec José Mourinho, qui préfère les joueurs un peu plus expérimentés. Et Ivanovic, moi déjà, il m'avait tapé à l'œil sur la double confrontation face à l'OGC Nice l'été dernier. Et moi, je me dis que Lens a un club qui est beaucoup plus en adéquation avec sa réalité de jeune joueur, et que lui, il peut être vraiment l'un des joueurs à suivre cette saison du côté de la Liga, encore plus dans un système d'attaque à deux qui sied beaucoup plus à ses qualités.
Moi, le souci, c'est que je pense que ça va tourner. Je pense que ça va tourner, tu sais, dans cette espèce. Toi, t'as parlé d'attaque à deux, mais il y a vraiment.
Ouais, attaque à deux, attaque à trois. Ouais, c'est ça.
Édouard, Sima,
je pense, qu'il part un peu derrière.
Oui, il part un peu derrière, mais il va croquer des minutes. Ryan Fofana, que moi je trouve très, très intéressant en préparation. Florian Thauvin, le petit Mesloub, Skoras, t'as quand même beaucoup de joueurs qui vont vouloir manger des minutes. Et c'est peut-être ce qui peut le retenir un peu, au niveau du classement des buteurs. Après, les Parisiens, t'es pas à l'abri qu'un Gvara ait énormément de minutes et qui remporte l'intimbale, même si ils vont tous, surtout maintenant avec un effectif hyper étoffé, avec l'arrivée de Mika Goetz, ils vont tous en fait se manger des minutes. Un joueur qui sera pas du tout en concurrence pour le classement des buteurs, mais un attaquant, peut-être pas un avant-centre, mais un attaquant qui me plaît, moi qui m'a aussi tapé dans l'œil, c'est Santi Hidalgo à Toulouse. J'adore ce profil, j'adore son sens du sacrifice, j'adore son volume de course. Je trouve que c'est un attaquant hyper intéressant à voir où il va être utilisé, mais s'il est à la fin des circuits avec Ascou, un entraîneur qui a des velléités, des volontés offensives, j'aimerais bien moi le voir en peut-être pas en double double, mais à plus de 10 buts.
En plus de 10 buts,
j'aimerais bien le voir à deux chiffres.
La suite d'Emerson, bon, même si Emerson c'était beaucoup plus fragmenté.
Moi j'aimerais vraiment en fait que voilà qu'il atteigne le bilan comptable d'un Tahith Dalinga. Je te trouve que ce sera
pour moi ce sera l'exemple à suivre.
Après il y a des profils moi que dans les petits clubs
c'est là où je voulais venir, parce que mine de rien on a fait du name dropping sur des joueurs, mais principalement
on est allé un peu plus loin que le name dropping, c'est dur avec nous là quand même, on est allé un peu plus loin.
Mais ce que je veux dire, on a cité des noms principalement d'équipes de la première partie du tableau, et moi j'ai envie d'avoir des découvertes dans ce que j'appelle la classe moyenne de la Ligue 1, c'est-à-dire les équipes du multiplex qui sont capables de nous faire réveiller des joueurs. Et Esteban Epol, bah il vient d'Angers, moi j'ai envie de voir un Esteban Epol 2.0 qui émerge.
El Ouazani que moi j'avais adoré à Guingamp, qui est un vrai joueur de surface qui va vite, qui a pas réussi à Braga, là où je pensais quand il est parti. Je me suis vraiment dit,
ça tient sa blessure aussi.
Mais je me suis vraiment dit, franchement, c'est un environnement idéal pour progresser. Et finalement, il revient, on sait qu'il tire les pénalties, donc comptablement, ça peut être intéressant. Après, je vais un tout petit peu parler avec le cœur, mais je suis obligé d'en parler.
Ah bah, je sais, Josh Maja.
Voilà, Josh Maja, c'est un joueur de surface.
Les yeux qui brillent, c'est beau.
Quand il est en confiance à West Brom, quand il a eu un entraîneur pour le mettre en confiance, il a marqué. À Bordeaux, en fait, c'est un joueur de période. C'est un joueur de mois ou de trimestre. Quand il est en confiance, quand l'équipe joue pour lui, c'est un super coéquipier. Et là, c'est un joueur super adroit. Après, c'est vrai qu'il a des traversées du désert et qu'il est assez fragile physiquement.
Mais il avait mis 15 buts en Ligue 2.
Ouais, mais t'as raison. On en a parlé avec Walid et Christophe il y a quelques semaines. C'est le cadeau de la mariée du côté de Dembaba, parce que l'investissement que tu fais sur un Josh Maja économiquement et en termes de projection est quand même très intéressant pour le Havre. On sait que le poste de numéro 9, alors t'as eu le run de Soumaré, mais le poste de numéro 9 au Havre, c'est un poste à pourvoir.
Je vais te dire, même un Louis Mafuta qu'enchaîne les saisons en Ligue 2, il était bon à Curem, il était bon à Amiens, il était bon à Guingamp, et bah au Mans, dans une équipe qui va peut-être jouer à deux, donc qui est un peu favorable aussi, un système un peu favorable pour les attaquants de pointe. On a vu Rabillard, on a vu Damgay l'année dernière qu'on marquait régulièrement. Et ben moi j'ai envie de le voir. C'est-à-dire que certes, après il y a des équipes où je trouve qu'au poste de numéro 9, il y a un peu un trou. Trois Beltayeb, pas, je comprends pas. Il y a aucun club de Ligue 1 qui est parti.
Il y a la réalité économique. Aujourd'hui, investir sur un numéro 9 en Ligue 1, c'est compliqué.
Mais il y a même. C'est ce qui coûte le plus cher.
C'est la vitrine du magasin. C'est la vitrine du magasin. Et dès que t'as pas la vitrine, bah c'est beaucoup plus compliqué.
Ajorque, un an de la fin de son contrat, pareil. Est-ce qu'Ajorque, en fait, va rester à Brest? Est-ce qu'il va. Est-ce qu'il reste à Brest? Il a un an de la fin de son contrat.
Il faut espérer, en tout cas, pour Brest, qu'il va rester.
Oui, mais doublure de luxe, en fait, à Lyon, à Marseille, qui pourrait peut-être se rabattre sur, avec Grégory Lorenzi, se rabattre sur ce type de profil. Il y a des équipes. Lorient, en fait, a perdu Pagis Sélieng.
Arrête de donner des noms parce que ça énerve Nicolas. Nicolas, il doit passer des très mauvaises vacances, qui nous envoie des tonnes de messages, il est colère. Et en plus, j'ai l'impression qu'il n'entend pas très bien ce qu'on dit, parce que d'après vous, Openda, Le Paul Thauvin, au niveau international, mais il devrait être en sélection sans marquer. Je ne comprends pas le message, Nicolas. Après, il nous dit que vous avez parlé également de Thauvin et Tolisso, que vous voudriez revoir en équipe de France. Pas du tout, Nicolas. Il y a quelques soucis. Et Nicolas, je crois qu'en fait, ce qui l'énerve à la base, tu vois, c'est cette inversion, ce match entre Rennes et Paris. Parce qu'il nous dit, il nous envoie plein de messages. Hein. Si Rennes était fair play, ce serait déjà réglé. Bizarrement, ce serait le PSG à la place de Rennes. On exagérerait.
C'est sympa, Nicolas, dans la vie en tout cas.
On exigerait que lui fasse l'effort. Si vous ne me croyez pas, demandez à Daniel et appelez Daniel. Bon, Daniel a autre chose à faire a priori, mais il fera une petite apparition dans l'afterfoot ce soir.
Non mais attention, Nicolas, Rennes est aussi dans son droit. Rennes a raison de s'appuyer notamment sur les textes juridiquement parlant, parce que même par rapport à tes supporters, tu peux pas dire autre chose. Tu peux pas dire ouais bon les gars, bah finalement bah, on va inverser et en gros ça va se passer comme ça, en sachant qu'il y a des supporters qui avaient pas prévu d'aller au Roison Park. Tu leur dis bon bah les gars, rappliquez. C'est pas aussi évident,
et
Nicolas.
Oui. Moi, et pour faire le package, vu que vous avez donné une douzaine de noms, et bien il est pas content encore, Nicolas. Tu vois, on va finir avec Nicolas. S'il y avait de vrais grands buteurs potentiels, vous auriez donné un top 3 et basta. Mais non.
Il y a un club qui est une académie du numéro 9 qui historiquement a aligné et enchaîné les numéros 9, Trezeguet, Falcao, Mbappé,
Monaco.
Ben Yedder. Et ben là, je trouve qu'il y a trop de cuisiniers. J'ai du mal entre.
Il y a Balogun, c'est le cuisinier numéro 1.
Il est sûr de part. Ablin, Biret, Brunner.
Biret, on espère qu'il va retrouver le chemin défilé.
Mais il est encore dans l'effectif. Donc, en fait, historiquement, le Monaco, qui est une vraie école de numéro 9, nous a habitués à avoir un peu. À commencer la saison avec un peu plus de certitude. Mais là, on a pas mal de points d'interrogation.
Il y a Balogun qui est sur le départ, parce que ça reste le quatrième meilleur buteur de Ligue 1 l'année dernière.
Et en plus, il a fait une bonne Coupe du Monde aussi, donc évidemment, on imagine qu'il y aura.
Jusqu'à l'intervention du bureau Oval.
Effectivement.
Bon, ça, il n'est pas responsable, Paul.
On l'espère.
Le carton rouge a été emmené, il n'est pas responsable. Et Dom qui nous dit, est-ce que c'était une crêpe ou une galette, Karine? Alors non, je ne mange pas à l'antenne, je me suis juste étouffée. Au mieux, je bois. et de l'eau, bien sûr, hein, je précise, évidemment. On est ensemble sur RMC jusqu'à 22h. Juste après, il y aura l'After Foot dans quelques instants. On va parler des promus, on va parler de Troyes, on va parler du Mans. Quel est le promu le mieux armé pour cette saison? On parlera également de Witzel, qui a été présenté aujourd'hui à Nice. Et Maxime Tilliette a eu le bonheur de l'interviewer. Et puis, on vous attend également au 32-16 pour nous dire est-ce que vous êtes confiant pour la saison de votre club préféré ou est-ce qu'il y a encore des ajustements à faire? Quel joueur vous voudriez voir signer chez vous? On est ensemble jusqu'à 22h. À tout de suite sur RMC.